Un conte qu'il soit conté. Ainsi souvent commence la parole, au village, au spectacle et à l'université. La littérature orale n'est pas chose à prendre à la légère et depuis 7 ans, l'INALCO, qui est, comme chacun ne le sait pas forcément, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, a créé un master intitulé « Oralité et Anthropologie ». À sa tête, Ursula Baumgart, aujourd'hui notre invitée, logique en cette période de rentrée universitaire. Bonjour Ursula Baumgart.
Bonjour.
Avez-vous un rituel pour commencer vos cours, comme il existe souvent un rituel pour commencer un conte ?
Pas comme un conte. Non, c'est pas un rituel verbal. Je suis plutôt, c'est entre moi et moi que j'ai un rituel. C'est-à-dire, je m'assure bien que je suis attentive et que bon, l'audience est là.
Oui. Alors, si on parle d'oralité, on parle essentiellement aujourd'hui de l'Afrique, parce oui. que l'art verbal s'est un peu perdu en Europe.
Oui. Mais c'est vrai que l'Afrique est un berceau de l'oralité, où l'oralité reste très 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 vivante malgré toutes les difficultés que l'Afrique peut connaître sur tous les plans. Donc l'Afrique a su transmettre et préserver l'oralité comme un mode d'expression culturelle extrêmement important. Mais l'oralité existe aussi ailleurs. Elle existe par exemple dans des régions du monde qui elles aussi ont connu une domination politique forte, que ce soit d'ordre colonial ou non, en tout cas une domination politique forte. On peut par exemple évoquer les Amériques, qui sont où une littérature orale est très fortement attestée. On peut aussi parler des Antilles, par exemple, ou bien en France, il existe encore une oralité réelle dans les langues régionales qui sont à l'honneur lors de festivals, par exemple, ou qui sont à l'honneur par un conteur fantastique comme Bruno de la Salle, qui était le directeur du Conservatoire de littérature orale.
Pour autant, votre cours s'intéresse essentiellement à l'Afrique. Qui sont les étudiants qui suivent votre cours ?
Ils sont effectivement peut-être d'abord des étudiants d'Afrique, parce que je suis enseignante d'une langue et surtout d'une littérature en langue africaine, le Peul en l'occurrence. Donc, ils me connaissent un peu par là, mais dans le master tel que nous le concevons, nous inscrivons dans une perspective transversale. C'est-à-dire, il y a des langues des différentes régions du monde qui sont représentées. Et nous avons des étudiants, par exemple, de coréen ou de peul ou de haoussa ou de japonais éventuellement.
Quand vous avez créé ce master, c'était donc en 2013 sur la Baumgart, il vous a fallu vous armer de convictions pour convaincre l'INALCO, qui est un institut très important, créé au XVIIIe siècle, où on enseigne aujourd'hui 100 de langues, mais où l'oralité n'était pas forcément au goût du jour.
Il a fallu de la force de conviction, c'est vrai, mais j'ai rencontré une oreille bienveillante, effectivement, et c'est à l'époque la présidence de l'INALCO qui m'avait encouragée à faire un master qui s'intitulait à l'époque Oralité et Anthropologie, s'inscrivant dans le master Langue, Littérature et Civilisations étrangères et régionales, LLCER.
Comment vous êtes passionné pour l'Afrique et pour la littérature orale africaine? Parce qu'on a beau dire, c'est pas aussi courant que cela. On est dans une culture, en tout cas en Europe, une culture écrite.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, je pense que en Europe et dans d'autres pays, on va dire à culture d'écriture dominante, on ne vient pas à l'oralité tout droit. On vient par plusieurs détours, des voyages, des découvertes successives. Pour moi, j'ai d'abord travaillé sur la littérature africaine d'expression française. Et j'ai fait une thèse en littérature francophone. Je l'ai faite à Nanterre avec Claude Abastado. Et pendant ce temps, j'ai découvert l'INALCO. Et j'ai étudié le Haoussa et par la suite le Peul. Et c'est de cette manière, par les cours qui étaient offerts à l'époque, notamment par Geneviève Calame-Griol, Christiane Seydoux, Véronique Agarug, etc.
Donc c'est une passion universitaire, essentiellement. Une curiosité qui vous a emmené à découvrir ce continent presque inconnu et presque inexploré par les chercheurs.
Disons, ce qui m'intéressait, c'est je suis de formation littéraire et linguiste. J'ai aussi une formation de sociologie au départ en Allemagne. Donc, j'ai découvert la littérature africaine d'expression française et je me suis demandé, mais où sont les langues africaines dans tout cela? Je suis allée vers les études africaines et donc, mon intérêt au départ était effectivement une curiosité. Comment peuvent coexister, quelles sont les autres littératures qui peuvent exister? C'est comme ça que je suis, j'ai découvert l'oralité.
Alors, vous parlez le Peul, vous parlez la Haoussa, est-ce que vous parlez Tamatchek?
Ah bah malheureusement non, c'est déjà beaucoup, vous savez.
C'est déjà énorme.
Je dois quand même être modeste. Je parle le Peul, oui, mais le Haoussa maintenant, c'était la première langue que j'ai apprise. Et puisque je pratique beaucoup plus le Peul, il est vrai que je sais encore saluer, mais je ne parle plus.
Oui, c'est comme moi avec l'allemand qui était ma deuxième langue, je suis à peine capable de vous dire bonjour. On va faire une petite leçon de Tamatchek avec le groupe Touareg Tinariwen. Alors on les a entendus samedi dans l'émission Musique du Monde de Laurence Alloir, car elles viennent de sortir leur 9e album intitulé Amadjar, ce qui veut dire l'étranger, l'étranger à qui l'on doit l'hospitalité. Taha, extrait du nouvel album de Tinariwen sur RFI, où nous parlons aujourd'hui de littérature orale avec Ursula Baumgart, qui dirige un master anthropologie et oralité à l'INALCO. Oralité, et entre oralité tout seul, pas anthropologie. Il est devenu oralité, vous me le soufflez, merci. Alors justement, quand on parle de littérature orale, il faut préciser que ce n'est pas une sous-littérature pour vous, c'est une littérature à part entière, sinon je me fais gronder.
Terriblement.
Terriblement, bon.
Oui, tout à fait, merci de poser la question d'emblée, parce que effectivement, en oralité, nous avons déjà un vocabulaire qui est parfois un peu compliqué, difficile à comprendre. La littérature orale, en soi, ça semble ne pas exister. Et si nous disons que littérature orale est une littérature à part entière, c'est que nous pensons qu'il y a toutes les caractéristiques de la littérarité qui sont attestées en oralité et qui, justement, puisent leur spécificité dans le fait qu'elles sont dites oralement. Et donc là, justement, on a une organisation de la parole en parole ordinaire et en parole non ordinaire. Parfois, par exemple, on va trouver une parole cuite et crue, une parole claire et obscure, etc. Ce sont des catégorisations dans différentes langues.
Mais c'est quoi une parole cuite et crue ?
Ah bah là.
Parce qu'un vocabulaire cru, je comprends, mais une parole cuite, alors là, vous m'épatez,
eh ben,
Ursula.
Cela, je le dois à Jean de Rive. Ce sont des exemples que Jean de Rive nous a donnés. Il en a encore un qui est encore plus joli, c'est une parole à coque. Une coque, c'est quelque chose qui est solide, qui enveloppe un fruit et auquel on accède en cassant la coque. Hein, ça veut dire une parole à coque ou une parole cuite, c'est quelque chose qui a été travaillé, qui ne relève pas d'un état initial. Il a été travaillé, on y accède avec des outils, une méthodologie, on va dire, hein, avec un éclairage pour arriver à comprendre ce que c'est que la parole non claire.
Donc, ce sont des catégories de la littérature orale que vous venez de brosser comme ça très très rapidement. Mais en même temps, parler de littérature orale, je suis un peu faussement naïf. Hein. ça pose un certain nombre de questions parce que le support forcément est éphémère. On repose sur la mémoire humaine. Le corpus, j'imagine, extraordinairement vaste. Et si Molière, Shakespeare, Victor Hugo ou autres avaient été des littérateurs oraux, on les lirait pas aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. Donc là, effectivement, il y a une différence fondamentale, c'est que l'oralité s'inscrit toujours dans une communication directe, non médiatisée, et c'est là que réside la différence fondamentale qui va engendrer toutes les différences et particularités de la littérature orale. C'est vrai, nous avons maintenant la possibilité, depuis quand même de longues décennies, d'enregistrer les littératures orales de telle sorte qu'elles puissent être accessibles à la recherche et qu'elles puissent être conservées, archivées, etc.
Oui. Donc aujourd'hui, ça passe forcément par un enregistrement et une traduction pour que ça nous soit lisible, parce que je ne lis pas le Peul, pas davantage le Haoussa, contrairement à vous.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a une différence à faire entre les pratiques socioculturelles dans les sociétés où l'oralité est vivante. Il y en a en Afrique, en Europe, dans les Balkans, etc., un peu partout. Et donc, effectivement, on a les pratiques socioculturelles qui consistent à organiser des veillées, réciter des épopées, échanger des proverbes dans une conversation, chanter une berceuse, etc., etc. Ça, ce sont les pratiques quotidiennes de la littérature orale. Et pour qu'elle puisse être accessible à la recherche, effectivement, il faut l'enregistrer, transcrire et traduire.
Oui. Pour la chercheuse que vous êtes, Ursula Baumgart, est-ce qu'on peut parler de répertoire, du coup, de littérature orale ?
On peut parler d'un répertoire patrimonial dans un sens très très large, dans la mesure où effectivement nous sommes dans un domaine de transmission et où par exemple l'épopée qui est un genre bien très très clairement défini, où le genre va être transmis dans un répertoire patrimonial. Oui. Mais il y a aussi, et ça c'est plus récent, il y a aussi la notion de répertoire individuel. Quand on parle de répertoire patrimonial, on est plutôt dans l'idée de la transmission. C'est-à-dire, on est dans, on va dire, l'idée que la littérature orale est transmise de bouche à oreille, de génération en génération.
Avec des variantes, quand même.
Oui,
il peut y avoir
fait.
Des variantes dans les épopées ou dans les contes, ou même dans les proverbes.
Tout à fait. Avec des variantes, oui. C'est inhérent à l'oralité, oui.
Mais est-ce que cela suffit à résumer la littérature orale ? Si on dit par exemple épopée, conte, proverbe, est-ce que voilà, ça, c'est cela la littérature orale ou ça dépasse amplement ce que l'on peut connaître ?
Disons, il y a des genres de la littérature orale qui sont nombreux et qui varient en fait selon les cultures. L'épopée est attestée beaucoup plus dans certaines sociétés que dans d'autres, etc. Oui. Mais ce qui est commun à toutes les littératures orales, c'est que il y a une communication non médiatisée, il y a une recherche d'expressivité qui va se s'organiser justement en genre littéraire, mais qui va toujours avoir recours à des ressources spécifiques de l'oralité, la voix, la gestuelle, la présence, surtout la présence de celui qui parle ou de celle qui parle et de son public.
Donc vous parlez à la fois de tradition en matière d'oralité, de littérature orale, et vous plaidez aussi pour une culture contemporaine. Vous dites qu'il faut arrêter de penser la littérature orale comme quelque chose d'archaïque. Elle est mouvante, elle est vivante, et elle se pratique aujourd'hui encore, elle s'invente encore aujourd'hui en 2019.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce sont des réalités qui ne sont pas toujours très faciles à observer. Parce que, dans tout le domaine de l'oralité, nous sommes confrontés à un éclatement absolument extraordinaire du domaine. Pourquoi ? Parce que il y a de nombreuses langues et les oralités ne sont pas toujours abordées d'un point de vue global, transversal et méthodologique. Ce qui fait que, effectivement, la nouveauté et la créativité de l'oralité ne sont pas toujours faciles à observer, mais ça existe.
Alors c'est aussi le point de vue d'un grand griot malien, Bakary Soumano, qui en l'année 2000, s'expliquait au micro de Théogène Karabaïnga.
Le griot, c'est le gardien des traditions, c'est le garant des coutumes, c'est le dépositeur de la mémoire collective, c'est le médiateur, c'est tout cela le griot. Griot est un mot que le français a tiré d'un mot portugais, criado, qui veut dire relayeur, mais qui ne peut pas me désigner, moi. Dans ma langue, on m'appelle Djeli. Djeli, c'est le sang. Pour dire que je suis au corps social, c'est que le sang au corps biologique. Imaginez que c'est tout un programme. Quand on parle de tradition, de coutume, les gens voient le passé, un certain passéisme, une situation figée. Il n'en est rien. La culture, c'est comment un peuple voit le monde, sa philosophie du monde. Donc, la culture va poser des principes de vie. Mais pour mettre ces principes de vie en mouvement, en action, on a besoin de modèles, d'indications, de références. C'est donc là qu'interviennent les coutumes et les traditions. Mais les coutumes et les traditions sont simplement les moyens d'expression de la culture. Comme telles, elles sont évolutives dans le temps et l'espace pour s'adapter au flux de l'histoire et au développement des connaissances humaines.
Ursula Baumgart, vous êtes absolument sur cette ligne, hein, en l'écoutant, Bakary Soumano, vous dites, il a absolument raison, et vous dites d'ailleurs que l'oralité ne doit pas rester la chasse gardée de l'anthropologie, et vous n'êtes pas anthropologue.
Non.
Vous êtes linguiste, vous êtes spécialiste de littérature.
Oui, oui. Mais je peux préciser un peu, notre orientation et notre conception de l'oralité dans ce master que je ne suis pas seule à diriger. C'est une équipe. Nous sommes une équipe pédagogique nombreuse. Il y a par exemple Rosa Bouchereau qui, elle, travaille sur les oralités balkaniques. Elle travaille sur le macédonien. Il y a Aboubakr Shraibi sur l'arabe césarétier. Donc nous avons une équipe qui investit la problématique de l'oralité dans le sens que, effectivement, c'est une expression culturelle spécifique, communication non médiatisée, directe, qui puise dans la tradition, mais qui se renouvelle toujours, toujours.
Alors, pour illustrer votre propos, je vous propose de revenir sur un cas précis que vous connaissez bien, la conteuse Peul Gogo Hadi de Garoua, du Cameroun, conteuse à qui vous avez consacré un livre il y a quelques années. Vous dites d'ailleurs conteuse et non pas griot ou griotte, comme le disait Bakary Soumano. Quel distinguo vous faites entre conteuse et griotte ?
Ben là, effectivement, on doit... Et tout à l'heure, quand j'ai dit que je ne suis pas anthropologue, c'est vrai. Ce qui ne veut pas dire que j'exclus l'anthropologie de l'approche de l'oralité. Au contraire, on est toujours obligé d'avoir un regard sur les sociétés dans lesquelles l'oralité est produite. Et justement, rien que le terme de griot est un exemple, puisque il est attesté dans certaines sociétés où il a la fonction de spécialiste. C'est le maître de la parole. Ailleurs, cette catégorisation sociale n'existe pas forcément, et on est conteur ou conteuse en fonction de son talent et surtout en fonction du public qu'on peut mobiliser.
Donc de Gogo a dit, vous dites, c'est une conteuse. Oui. Alors on va raconter très rapidement son histoire et la rencontre, les rencontres que vous avez eues avec elle. Aujourd'hui, elle est décédée, il y a une vingtaine d'années, mais vous l'avez vue à plusieurs reprises, vous l'avez enregistrée, puis vous avez donc retranscrit et traduit ses textes. Est-ce que vous diriez que c'est une auteure, une autrice à part entière?
Eh ben, vous voyez, je crois que la notion de répertoire individuel induit des questions comme celle que vous venez de poser, c'est-à-dire est-ce que en oralité, est-ce que on est dans la transmission, dans l'anonymat et l'absence d'auteur, absence de création également, ou bien, et je crois que la notion de répertoire ouvre la question sur ces dimensions. Quelqu'un qui est conteur, à mon avis, peut être tout à fait créateur. Il n'est peut-être pas auteur dans le sens que il va être à l'origine d'un texte qu'il aura appris tout à fait par la transmission. Mais je pense que dans la performance de littérature orale, il y a quelque chose d'unique qui se produit à chaque fois.
Donc il y a quelque chose d'unique avec Gogo Hadi.
Oui, absolument.
Absolument. Une sacrée personnalité, une sacrée vie, elle est orpheline très tôt, sa mère est très sévère, elle a une éducation à la dure, et très important, elle aura 8 maris dans sa vie. C'est quand même pas rien d'avoir 8 maris dans la vie. Et dans quel contexte elle compte? Est-ce que c'est son unique activité à Gogo Hadi de Garoua?
Quand je l'ai rencontrée, elle était déjà très âgée et j'ai eu un long travail d'approche, en fait, de familiarisation avec elle avant qu'elle n'accepte de compter. Donc ça, premièrement, si vous voulez, on peut y revenir. Quand elle était jeune, elle le disait très volontiers, oui, mais je comptais. Quand chez un tel, quand elle était dans tel ménage où elle allait bien, elle comptait, et il y avait un public nombreux qui venait l'écouter. Donc c'était sa passion, c'est ce qu'elle aimait faire.
Elle a, j'allais dire, voyez, je me laisse piéger moi-même, elle a écrit, j'allais dire, elle a écrit. Non, vous avez écrit, vous avez retranscrit 70 de ces textes, qui sont souvent des textes assez narratifs. Elle part souvent de la vie réelle, mais elle bascule dans un imaginaire qui lui est propre. Il est souvent question de mariage, par exemple. Elle a eu 8 maris, elle en connaissait un rayon. Mais c'est des mariages qui deviennent fantastiques. Il y a un conte très drôle, par exemple, qui est celui des poils de girafe, où une femme Peul décide qu'elle n'épousera que celui qui lui apportera des poils de girafe, qui par magie vont se transformer en or. Et il y a aussi plein d'histoires de rois avec enfants, sans enfants, avec des enfants serpents, avec que des filles, avec des enfants laids, puis un beau, enfin bon bref, etc. Est-ce que cela fait une œuvre?
Oui.
Cela fait une œuvre?
Oui, je pense que oui. Parce que dans la mesure où, comme le dirait par exemple Jean de Rives, la littérature orale est aussi une littérature en kit, pourrait-on dire. On a des éléments qui peuvent être transmis, mais qui sont assemblés de manière tout à fait originale et particulière. Et certains des contes du répertoire de Gogo Hadi sont connus ailleurs, mais l'assemblage qu'elle en fait, le choix qu'elle fait dans un réservoir plus important de contes est le sien. Et elle développe à travers cette quantité importante de textes une vision du monde qui est tout à fait comparable à celle écrite dans un ouvrage, dans un roman ou dans d'autres textes littéraires.
Vous dites même qu'elle a presque un style et que ses récits sont marqués par l'atténuation et par un sens de la description très détaillée, très minutieuse. Donc ça, c'est la patte Gogo, si j'ose dire, non?
C'est la patte Gogo et c'est aussi une malice réelle quand elle compte. Parfois, elle éclate de rire et puis on a un échange également au moment où elle raconte son histoire, mais j'allais juste préciser que quand je l'ai enregistré, c'était hors contexte naturel, c'est-à-dire pas en veillée, c'était dans la matinée parce qu'elle était fatiguée, raison. Bon, il y avait toujours un public, mais ceci explique par exemple le fait que les contes de Gogoadi justement ne sont pas introduits par la petite formule un conte, etc.
Que j'évoquais au début de l'émission.
J'allais le préciser.
Alors, on peut lire Gogoadi, mais en fait, on ne peut pas l'entendre. Vous seul pouvez l'entendre aujourd'hui. Elle vous a fait jurer de ne jamais diffuser ses enregistrements, qu'on ne puisse pas entendre sa voix. Je suis un peu frustré. Pourquoi ?
Eh bien, c'est pas elle qui me l'a demandé, c'est moi qui lui ai promis. C'est ma parole, c'est ma promesse. Hein. Ceci est lié au travail de familiarisation avec elle. J'étais arrivée à Garoua, on me connaissait, on savait que je cherchais des contes. On m'a dit, ah, il y a Gogoadi, tu devrais la voir. Je suis allée à plusieurs reprises, selon la façon dont on va saluer, etc. J'explique, je voudrais ceci, oui, on se salue. Mais toujours rien. Je demande, mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me donner des comptes ? On finit par me dire, oui, mais deux semaines après, oui, mais elle ne veut pas te dire des comptes parce qu'elle ne veut pas que tu amènes les comptes à la radio. Sa voix n'est plus belle, elle ne veut pas qu'on l'entende à la radio, elle ne sait plus très bien chanter. Donc, j'ai entendu cela, j'ai dit à Gogo, tu sais, je veux faire un livre avec pour que les contes ne se perdent pas. Je te promets, personne ne les écoutera, ne les entendra. Donc, c'est ma promesse qui
et vous
a
la
fait
tenez.
Naître.
Je ne peux que saluer cette promesse. Néanmoins, ma frustration reste réelle. Les derniers mots de Gogo sont maintenant, je regarde le monde et je suis simplement étonnée. C'est magnifique.
Oui,
comme
oui,
chute.
Oui, c'est très joli, c'est très joli. Elle a dit par exemple aussi, j'ai connu des hommes, maintenant ça ne m'intéresse plus.
Comme ça, c'est plus banal. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, Ursula Baumgart, de femmes et d'hommes, dont la littérature orale mériterait d'être conservée aujourd'hui ? Parce que quand même, c'est un art et un patrimoine un peu menacé par la modernité, l'urbanité, le numérique et tout le tintouin.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a une créativité tout à fait importante au niveau de l'oralité. Au niveau des contes, au niveau des épopées, des genres brefs, etc. C'est une richesse quand on se donne le temps de l'observer, de la rechercher, de la découvrir, qui est tout à fait attestée. Mais l'oralité nécessite du temps. Il faut du temps pour être écouté, pour être familiarisé avec les personnes, etc., pour que vous puissiez vraiment assister à des performances. Donc, ça existe. Oui, il faudrait pouvoir conserver les textes, mais je dirais, il serait peut-être très, très, très important qu'on réfléchisse à la fois les chercheurs, les journalistes, les spécialistes de la communication, de l'éducation. Comment est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de transposer ou de sauvegarder la pratique même de l'oralité dans d'autres conditions, dans d'autres contextes? C'est-à-dire, au lieu que ça soit la veillée, est-ce qu'on pourrait introduire ou réintroduire des productions de littérature orale dans d'autres contextes?
En tout cas, il faut créer des vocations de chercheurs, si je vous comprends bien, mais vous y travaillez avec ce master à l'INALCO, et puis vous travaillez aussi sur une encyclopédie des littératures en langues africaines. C'est votre travail du moment, et il y a un site internet qui est dédié à ce travail, que l'on donnera sur la page de l'émission et sur la page Facebook, bien évidemment, de Vive Voix. Merci beaucoup Ursula Baumgart. Deux livres parmi d'autres à signaler, tous publiés chez Cartala. Une conteuse Peul et son répertoire, on vient d'en parler, il s'agit de Gogoadi de Gawa. Et plus théorique, littérature orale et africaine, livre écrit avec Jean Derive. De Vive Voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.